Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir sur ce podcast, ce dernier podcast du Figaro Magazine intitulé « Vivre avec une schizophrénie ». On va parler des familles aussi, on va parler aussi des associations de malades. Martine Béticusseau, une première question ?
Oui, pourquoi tant de clichés et aussi tant de frayeurs autour de la schizophrénie, professeur Ollier ?
Parce qu'il est plus facile de comprendre une maladie qui touche le foie ou le tube digestif ou les artères que de comprendre une maladie qui modifie les capacités de sentir, d'aimer, de répondre et d'agir.
Alors au début de vos interventions, je vous ai posé la question à tous les deux, est-ce qu'on parle bien ou pas assez ? Est-ce que vous avez le sentiment que le cinéma parle bien de la schizophrénie ? Il y a eu récemment des films autour de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, de mon point de vue, on ne parle pas suffisamment de cette maladie, on n'en parle pas suffisamment bien, en raison de plusieurs écueils. Premièrement, très souvent, il y a une collusion entre faits divers et pathologies schizophréniques qui est tout à fait malencontreuse. Deuxièmement, très souvent, il y a une psychologisation, une simplification et je dirais on en parle comme si on était capable de tout comprendre en termes de psychologie. Troisièmement, il me semble aussi qu'il y a très souvent une caricature qui est en quelque sorte psychose de Hitchcock avec cette espèce d'image du dédoublement de la personnalité qui ferait que le sujet est nécessairement imprévisible et dangereux.
Docteur David Gourion, peut-on souffrir de schizophrénie et vivre normalement, c'est-à-dire travailler, avoir une existence totalement autonome, avoir une famille, des enfants ?
La réponse est oui. La réponse est oui, mais je dirais même plus, je reviens sur la question du cinéma. Une exception notable, sans jeu de mots, c'est peut-être le film Un homme d'exception, que vous avez peut-être vu, qui retrace l'histoire, la vie d'un prix Nobel d'économie, Nash, et qui montre à la fois que la maladie peut être dramatiquement sévère, mais qu'elle ne touche pas l'intelligence. Elle ne touche pas l'intelligence. Elle ne touche pas la capacité à s'exprimer dans les domaines scientifiques, artistiques, etc. Et on pourrait citer de nombreux. Bon. Ce qui ne signifie pas que la souffrance n'est pas là. Le film le montre très bien aussi. Alors, vous posez la question, est-ce qu'on peut vivre avec une schizophrénie ? On peut vivre avec une schizophrénie, mener une
normalement.
Vie normalement, avoir des enfants, avoir un travail, avoir une insertion sociale et professionnelle de bonne qualité. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas souffrance, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas plus grande difficulté que les autres pour arriver à mener cette vie-là. Et souvent, le combat des patients au quotidien est extrêmement difficile. Et que justement, le travail que vous faites de déstigmatisation et d'information sur la maladie est absolument indispensable.
Alors soyons concrets, docteur Gourion, professeur Ollier, je vais faire un prêt bancaire, je souffre de la maladie, est-ce que ça peut être quelque chose de négatif pour avoir ce prêt bancaire ?
Probablement. L'ensemble des maladies psychiatriques sont un problème à ce niveau-là, même si les médecins des compagnies d'assurance luttent contre cette discrimination. Mais c'est sur le principe, en même temps, on peut comprendre que s'agissant d'une maladie chronique, il y ait éventuellement un certain nombre de garanties de la part des assureurs, voire des surcoûts. Mais toutes les maladies psychiatriques sont un problème, éventuellement une cause d'exclusion.
La schizophrénie, vous considérez que c'est un handicap ?
La schizophrénie génère un handicap.
Vous savez qu'il y a un plan concernant les personnes handicapées. Est-ce qu'on pourrait imaginer de favoriser, d'avoir des facilités en matière de réinsertion aux personnes schizophrènes dans la mesure où il y a une génération de handicap ?
Oui, 10 000 fois oui, et plus encore. Oui, bien sûr. Il y a en France un déficit tout à fait massif d'accompagnement de ces situations de handicap dont on peut mesurer l'importance après quelques années d'évolution de la maladie, c'est-à-dire lorsqu'on a mis en route les traitements possibles et que l'on voit à quel niveau d'autonomie le sujet peut arriver.
Mais il y a un travail de réinsertion sociale qui est fait autour des malades souffrant de schizophrénie.
Oui, mais qui est tout à fait insuffisant. Les services hospitaliers luttent désespérément pour trouver, pour les cas les plus graves, pour trouver des lieux de vie. Les services hospitaliers et les familles luttent désespérément pour que des entrepreneurs acceptent d'embaucher ces patients. Il y a à l'évidence un énorme retard et une très violente discrimination de la part de notre société.
Est-ce qu'il y a des activités à recommander pour les malades et à l'inverse des activités à proscrire, docteur Gourion?
Je crois qu'il faut suivre les goûts du patient. Il n'y a pas d'activité plus ou moins. Je crois qu'il faut vraiment essayer au contraire de l'accompagner dans ses spécificités et vraiment le considérer comme une personne avant de le considérer comme un malade. Pour compléter ce qui vient d'être dit, pour donner un ordre d'idée, le délai d'attente pour un appartement thérapeutique, pour un patient schizophrène dont la famille n'aurait pas les moyens de financer, c'est 3 à 5 ans en France. Le délai moyen d'attente pour une place en hôpital de jour pour un patient qui justement aurait besoin d'être aidé au quotidien dans ses activités, c'est plusieurs mois, souvent 3 à 6 mois au moins. Donc on est dans une très très grande difficulté. Il faut aussi ajouter que la moitié des lits d'hospitalisation en psychiatrie a été fermée en 10 ans et que les structures d'aval qu'on attend et qu'on attendait manquent encore et font très cruellement défaut.
Professeur Ollier.
Oui, sur la question que vous posiez à David Gourion sur la profession, la schizophrénie est une maladie qui altère les capacités d'interaction et en particulier d'interaction sociale. Et donc, une profession qui sollicite fortement ses capacités d'interaction sociale va être plus difficile à atteindre pour un patient atteint de schizophrénie qu'une profession davantage stéréotypée ou davantage technique. En clair, en caricaturant, il est a priori plus facile pour un patient atteint de schizophrénie de travailler comme viticulteur ou comme menuisier que comme réceptionniste dans un hôtel.
Combien de personnes malades vivent à l'hôpital à l'année?
Mais je vais vous faire une réponse officielle. Aucune. Aucune, puisque les hôpitaux sont aujourd'hui gérés avec une priorité économique, avec une obligation de durée moyenne de séjour qui doit diminuer, et donc officiellement, les patients qui sont hospitalisés sont en soins. De fait, il y a des patients chroniques pour lesquels nous n'arrivons pas à trouver des places. Mais personne ne sait, et notre administration périodiquement repose la question, personne ne sait quel est le niveau d'inadéquation entre les occupants des places et les places.
Alors justement, moi j'aimerais aussi qu'on parle un peu des aidants, des familles, de l'entourage.
Ah oui.
Quel est le rôle de l'entourage de la personne malade?
Il est énorme ce rôle, bien évidemment. Premièrement, il faut que la famille ait une intelligence de la maladie, de la pathologie, connaisse la pathologie, en sache les modalités de manifestation et les possibilités évolutives, les mauvaises comme les bonnes possibilités évolutives. Cette famille doit aussi être en mesure de parler de la maladie avec le sujet. Comment un sujet pourrait-il être observant, être allié de son traitement, s'il ne sait pas ce qu'est sa maladie, s'il ne sait pas ce que sont les possibilités évolutives et les avantages et limites des traitements qui sont proposés? Donc le rôle de la famille, il est tout à fait essentiel. Deuxièmement, la famille doit aider le sujet dans cette orientation. Tout à l'heure, David Gourion disait l'importance, étant donné l'âge de début de la maladie, souvent à la fin des études, au début de l'orientation ou lors des premières étapes dans la vie professionnelle. Donc la famille doit, dans toute la mesure, épauler. Et éventuellement, elle doit aider le sujet à faire le deuil de certaines ambitions sociales pour investir d'autres perspectives plus réalistes. Donc, le rôle de la famille est tout à fait important.
Docteur Gourion, lorsque vous initiez un traitement ou lorsque vous faites le suivi d'un traitement d'un patient majeur schizophrène, est-ce que systématiquement, vous souhaitez voir la famille avec le patient?
C'est absolument indispensable. Voir la famille, la tenir informée.
Mais avec le patient?
Avec le patient, aussi souvent que cela est possible, si le patient l'accepte, si le patient n'est pas très angoissé, parce que parfois certains patients sont très délirants ou se sentent très persécutés par leur famille. Mais à chaque fois que possible, oui, à la fois pour que la famille et le patient aient le sentiment qu'on essaie d'instaurer une alliance entre, d'une part, l'équipe médicale et d'autre part, le patient, la famille, et d'autre part, pour ne pas que le patient se sente un petit peu exclu du débat. Le rôle de la famille est absolument considérable. Il faut dire aussi que lorsqu'il y a des patients qui arrivent et qui n'ont pas de famille parce que des décès, parce que la famille est à l'étranger, ce sont pour nous des situations beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles. Et je crois que malheureusement, lorsque la famille n'est pas là, un certain nombre de ces patients ne sont pas pris en charge, n'accèdent pas aux soins, voire se retrouvent dans la rue.
Professeur Ollier.
Les psychiatres ont eu le tort, à un moment, de culpabiliser, pour ne pas dire d'accuser, les mères en particulier et les familles de patients schizophrènes. Et là, le cinéma a porté cela, par exemple, « Vol au-dessus d'un nid de coucou » ou des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, le travail des médecins psychiatres, des équipes soignantes en psychiatrie est tout à fait différent. Et nous savons tous la nécessité de construire une alliance et d'avoir une cohérence d'objectifs autour du patient.
Tout à l'heure, vous évoquiez la pénurie de centres d'accueil pour les personnes souffrant de schizophrénie et n'étant pas autonomes. Alors, que se passe-t-il pour les familles? Quelle aide elles peuvent obtenir lorsqu'elles ne peuvent loger eh bien, le proche malade? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, docteur Gourion ou professeur Ollier?
Mais la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire? La famille, c'est être présente, c'est ne pas hésiter à interpeller, à discuter avec les soignants, à interpeller, à discuter avec les gestes, les administratifs éventuellement. Alors, la famille, on ne peut pas lui demander, et parfois on demande à la famille, du fait du manque cruel de structures d'aval, comme nous disons, c'est-à-dire de structures après l'hospitalisation. On manque de structures et des familles. Alors, il y a trois situations catastrophiques. Il y a les patients qui sont à la rue ou qui vivent dans des hôtels, qui font officieusement, mais de fait, office de foyer de post-cure. Il y a, deuxièmement, des patients qui sont exilés en Belgique, par exemple, où un certain nombre de handicapés psychiques sont très suivis.
Pourquoi en Belgique, pardonnez-moi?
Parce que la Belgique dispose de telles structures et parce que nos gouvernants acceptent de financer ces placements. Et puis, troisième situation douloureuse, ce sont des familles qui éventuellement sont détruites parce qu'on leur demande de gérer l'ingérable. Et il y a parfois des cas graves de patients atteints de schizophrénie qui sont dans leur famille avec un déficit d'aide tout à fait évident au niveau social, quoi qu'essaient de faire les équipes soignantes.
Sait-on combien de malades vivent dans la rue?
En général, toutes les enquêtes disent que près de la moitié des personnes qui sont sans domicile fixe sont atteintes de schizophrénie. Il y a un autre sujet qu'il faut aborder, c'est celui de la soi-disant dangerosité. Un patient schizophrène n'est pas plus dangereux que vous ou moi, sauf lorsqu'il n'est pas traité, lorsqu'il prend des toxiques, lorsqu'il est désocialisé. Lorsque un patient additionne ces trois facteurs, là, la dangerosité et le risque de violence est multiplié par un facteur 10. Donc, d'où l'importance d'un diagnostic pour que le traitement soit mis en place. D'où l'importance d'une prévention très forte des consommations de toxiques, en particulier le cannabis auquel ces sujets ont une sensibilité toute particulière, et d'où l'importance de mesures sociales pour que ces sujets ne soient pas effectivement totalement largués, désocialisés.
Docteur Gourion.
Des études ont d'ailleurs montré que les patients schizophrènes sont plus souvent victimes d'agressions, notamment, que le reste de la population générale. Les patients schizophrènes sont bien plus souvent victimes qu'auteurs d'actes ou dangereux. Je crois qu'il faut souligner cet aspect-là. Et un sujet que connaît bien Monsieur Ollier, c'est le nombre de patients schizophrènes qui sont en prison. Et qui sont en prison souvent parce qu'on est passé à côté de leur maladie mentale et qu'on a considéré que les actes commis ne relevaient pas d'un trouble psychique.
On note également beaucoup de suicides chez les malades atteints de schizophrénie.
Absolument.
Professeur Ollier.
Absolument. Tout à l'heure, David Gourion rappelait que sans traitement, un patient sur 6 atteint de schizophrénie mourrait de suicide. Il y a effectivement un risque tout à fait majeur à ce niveau-là. Et je dirais parfois d'ailleurs un risque malgré nos traitements, parce qu'il y a aussi un certain nombre de patients atteints de schizophrénie qui choisissent, si je puis dire, de se donner la mort lorsqu'ils ont été traités, lorsqu'ils sont améliorés après l'hospitalisation. Et c'est là où on retrouve l'importance de la famille, l'importance de l'entourage et d'un soutien social.
Alors, pour conclure ce dernier podcast, je voudrais quand même qu'on parle. On a parlé de la famille, de l'entourage, des médecins, bien évidemment. On n'a pas parlé des associations de malades. Quel est l'intérêt des associations de malades en tant que relais, notamment chez les personnes qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'entourage, qui, comme vous dites, Dr Gouillon, sont seuls, complètement seuls?
Fournir un relais, fournir de l'information, pouvoir éventuellement aiguiller les familles et organiser des réunions, des réunions d'information, et pouvoir constituer, si vous voulez, aussi un relais entre les médecins, les psychiatres, les patients, les familles de patients et parfois aussi les médias.
Alors, si vous en êtes d'accord, j'aimerais citer à l'antenne pour nos auditeurs qui nous écoutent une association qui s'appelle l'UNAFAM. Si vous souhaitez prolonger un peu les questions et les réponses qu'on vous a apportées, sachez qu'il y a un téléphone que vous pouvez appeler. Ils sont tout à fait compétents et pourront vous aider. Je rappelle ce numéro, le 01 53 06 30 43. 01 53 06 30 43. Vous travaillez avec l'UNAFAM ?
Absolument, nous travaillons avec eux. Et je veux dire, ils sont un conseil et un soutien tout à fait essentiel pour nous.
Très bien. Mais écoutez, peut-être avant de nous quitter, une conclusion. La schizophrénie, aujourd'hui, demain, comment vous voyez les choses de façon courte, professeur Ollier?
Je pense que la schizophrénie est une maladie qui altère le libre arbitre, qui gêne les interactions sociales de l'individu et que face à laquelle les traitements ont apporté des progrès considérables et à l'évidence, nos savoir-faire et nos capacités de traitement doivent continuer à évoluer et elles continueront.
Très bien. Professeur Ollier, merci. Docteur Gourion, merci. Martine, sûrement à bientôt. Merci de suivre les podcasts du Figaro Magazine.